Jean-Luc Salmès, vous l'entendez comment? Vous l'imaginez comment, la voix d'Isidore Ducasse, comte de Lautréamont? Vous imaginez qu'il avait quel type de voix?
C'est la voix de l'écrit, de toute façon, n'est-ce pas? Et cette voix de l'écrit est très marquée par le caractère épique des chants de Maldoror. C'est donc une grande prose, très ponctuée, très rythmée, où différentes autres voix peuvent intervenir d'ailleurs. Mais justement, je voulais lire un passage là, rapprochant d'ailleurs avec la conversation que nous avons eue auparavant sur les voix. Moi, j'entendais plus dans le livre d'Arlette Farge les cris d'ailleurs, me semble-t-il. C'est plutôt ça qui nous reste. Les cris de souffrance, les plaintes, etc., beaucoup plus qu'une tonalité particulière. Et alors, chez Lautréamont, par exemple, dans le chant deuxième, il nous dit qu'il naquit entre les bras de la surdité. Ça ne veut pas tout dire qu'il était sourd, mais Maldoror, à ce moment-là, affirme cela, puisque c'est lui qui parle, hein, et que nous pouvons entendre à chaque instant. Et étant né entre les bras de la surdité, il voit un jour le dieu, le faux dieu qui règne dans les champs de Maldoror et qui se repaît des hommes, un dieu anthropophage. Alors à ce moment-là, voilà ce qu'il dit, n'est-ce pas? À la fin, ma poitrine oppressée ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie, les lèvres de ma bouche s'entr'ouvrir et je poussai un cri. Un cri si déchirant que je l'entendis. Il était sourd. Donc à ce moment-là, c'est la naissance à l'audition. Les entraves de mon oreille se délièrent d'une manière brusque. Le tympan craqua sous le choc de cette masse d'air sonore, repoussée loin de moi avec énergie. Et il se passa un phénomène nouveau dans l'organe condamné par la nature. Je venais d'entendre un son. Un cinquième sens se révélait en moi. Bon, eh bien, c'est pris presque au hasard hein, dans les chants de Maldoror, et vous voyez la force bon, de cette naissance, un cinquième sens. La façon dont Isidore Ducasse dit le conte de Lautréamont, arrive à parler de ça dans la poésie même, avec son rythme particulier et cette précision incroyable du vocabulaire qui ne se trouve pas jusqu'à cet ordre dans la littérature.
Alors, un volume d'œuvres complètes de Lautréamont en Pléiade, c'est bien sûr un événement éditorial majeur, 300 pages à peine de Ducasse lui-même, et puis un cahier de lecture, 300 pages à nouveau, dont on va sans doute parler pour des textes signés, entre autres, Breton, Gilles, Maeterlinck, Valéry, Aragon, Michaud, Blanchot, Ponge, Artaud, j'en passe, Gracq, Camus, Debord, Solaire, sous le Clésio. Pour ne citer que quelques-uns de ses plus fervents lecteurs. Alors, François Angelier, vous avez déjà pu dialoguer sous cette antenne avec Jean-Luc Steinmetz dans votre émission Mauvais Genre, mais comme il vous restait des questions à poser, vous dites tiens, je vais venir à tout arrive. Vous avez bien fait. Mais en quoi Lautréamont, commence-t-on par cela, est-il pour vous Mauvais Genre et le reste-t-il en entrant dans la Pléiade d'ailleurs?
Alors déjà, c'est sa deuxième apparition dans la Pléiade. Il y avait une première opération, Lautréamont avec Tristan Corbière, ou Germain Nouveau, je sais
pas. Germain Nouveau,
il y a de plusieurs dizaines d'années. Donc là, effectivement, il y a un Lautréamont singulier parce que les recherches se sont développées autour à la fois de la vie de Lautréamont, de son environnement social, des objets qu'il a pu avoir connaître, des lieux qu'il a fréquentés. Il y a eu énormément de trouvailles, notamment de Jean-Jacques Lefrère. Et puis, donc, c'est une Pléiade un peu particulière, puisqu'il y a la deuxième partie, qui est celle des lecteurs. Et là, c'est tout à fait étonnant, puisque on parlait d'un Lautréamont mauvais genre. Lautréamont, c'est le mauvais genre absolu. C'est-à-dire qu'il est toujours en avance d'un mauvais genre sur nous. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est dit, bah oui, les chants de Maldoror, c'est très mauvais genre. Regardez, il y a une apologie du crime, de la bestialité, de l'assassinat, de la torture sadique, de la zoophilie. Enfin, c'est vraiment très mauvais genre. Et puis, je dirais, cet imaginaire radical du romantisme noir a fini par rentrer dans le décor, puisqu'il a été relayé par le cinéma, par la bande dessinée, par d'autres auteurs qui sont arrivés. Et puis est arrivé un deuxième mauvais genre, qui est une espèce de machine infernale, un petit peu comme un virus qui serait logé à l'intérieur d'un logiciel informatique et qui contaminerait, pour d'une manière détruire l'ensemble du dispositif littéraire, ce sont les poésies. Et je crois que les poésies sont sûrement, en termes de mauvais genre, mais en termes de nocivité, de parasitage, de destruction, le virus littéraire le plus formidable qui soit, puisque c'est une littérature qui est retournée contre elle-même et qui génère dans le champ littéraire une espèce de troupe dont on n'est toujours pas sorti, puisque vous avez eu un peu trois discours sur Lautréamont. Vous avez eu d'abord le discours des contemporains, que ce soit Rémy de Gourmont, Léon Blois, qui étaient confrontés à ce livre aberrant, dont il fallait parler, on ne sait pas trop quoi en dire, donc on avait souvent recours à la folie, c'était un fou, Léon Blois. Il y a eu également de Gourmont, et puis Genonceau, qui a défendu Lautréamont contre l'idée de la folie. Enfin, on ferraillait autour de cette idée. Après sont arrivés les surréalistes, c'était une espèce d'héritier, un peu de l'attentat anarchiste, qui balançait les chants de Maldoror, comme ça, à l'intérieur de la littérature, et puis arrivent ensuite les Telqueliens, avec cette troisième mode de lecture autour des poésies. Donc on se rend compte qu'à chaque fois, on est en proie à quelqu'un qui fait toujours sonner les portiques de sécurité. C'est-à-dire qu'on a beau s'habituer, on ne s'habitue pas. C'est toujours en avant, Lautréamont.
Jacques Steinmetz, commentaire sur cette analyse de François Angelier.
C'est une analyse qui est la sienne et qui est presque exhaustive à sa manière. Simplement, évidemment, il y a toute cette suite de lecteurs parmi lesquels il faut repérer ceux qui ont mis de plus en plus en avant les poésies, car c'est là, semble-t-il, que se passe l'essentiel malgré tout. Et quoique les chants de Maldoror soient évidemment la partie qui continue de nous séduire aujourd'hui, parce qu'elle est narrative. Elle se termine d'ailleurs par un petit roman qui est une drague homosexuelle, mais une drague homosexuelle qui prend des dimensions considérables puisqu'elle se développe au niveau même de la ville de Paris. Mais les poésies pratiques, d'une part, les poésies 1, montrent un art poétique qui accuse en quelque sorte toute la littérature antérieure. Et ce jeune homme de 23 ans, on s'aperçoit qu'il a tout lu, n'est-ce pas ? Pas simplement les auteurs français, mais des quantités d'auteurs nationalité très différente, lui-même se réclamant d'ailleurs de Byron, de Mankiewicz, du Faust de Goethe, etc., etc. Bon, alors, première partie, art poétique véritablement contondant, renversant, et qu'il faudrait conseiller de lire beaucoup plus que tous les manuels de littérature à ceux qui veulent faire de la littérature. Là, ce serait une pratique d'assainissement. Et puis, la deuxième partie, la pratique du détournement, n'est-ce pas ? Cette pratique du détournement qui est devenue tellement offensive qu'un Guy Debord a pu s'en réclamer dès 1953 dans un article de Les Lèvres Nues. Mais au fond, toute l'internationale situationniste est pénétrée par ça. Ce qui veut dire que là, Lautréamont, il pénètre dans l'histoire. Pas simplement l'histoire littéraire, mais l'histoire, n'est-ce pas ? Et tel quel a bien montré cela aussi, tout en ignorant, et on en parlait hier avec Philippe Solers, tout en ignorant, ça c'est leur responsabilité, mais c'était pas facile de se repérer à cette époque-là, tout en ignorant donc les situationnistes, eux étant à ce moment-là soit du Parti communiste, soit maoïste. Ce qui veut dire qu'il y a un Lautréamont politique aussi, hein, évidemment. Mais ce Lautréamont politique, c'est pas seulement le Lautréamont matérialiste de l'écriture, car il y a un matérialisme de l'écriture, pour l'une des premières fois dans la littérature. C'est-à-dire que l'on voit très bien la place du lecteur, du scripteur, de la parodie, de l'ironie. Tout cela est mis en place continuellement. Et donc, il y a ça qui relève d'un matérialisme scriptural. Et puis, il y a aussi le rapport au langage tel qu'il peut régler le politique, ou tel que le politique est inféodé. Et on s'aperçoit, malheureusement, le retard est grand, que certains philosophes aujourd'hui, comme Badiou, là, en ce moment, commencent à s'intéresser à Lautréamont, alors qu'auparavant, ils se sont intéressés à Mallarmé. Mallarmé politique a bien des raisons de les intéresser aussi.
Alors, premier regard et peut-être question aussi de Michel Vignard.
Ah oui, la question, c'est une comparaison. Parce que Lautréamont, il meurt à 24 ans, en 1870. Rimbaud a 16 ans. Et il va avoir cette carrière poétique éclair. Donc il y a évidemment des comparaisons à faire. Et en même temps, leur destin va être très différent, parce que Rimbaud, il est rentré dans les manuels scolaires. Il est rentré dans notre imaginaire à travers la photo de Carja, à travers les peintures d'Ernest Pignot-Ernest. Je veux dire, il est, d'une certaine manière, notre contemporain et notre ami. Alors que Lautréamont, et vous le dites lui-même, c'est plus que presque un poète maudit, c'est un minoritaire. Il y a quelque chose... Solers le dit très bien, il dit « Lautréamont résiste ». Il y a quelque chose chez Lautréamont qui résiste, je dirais, à toute absorption, à toute assimilation culturelle, plus d'un siècle après. Alors, à quoi ça tient ? Alors, moi, j'ai une réponse. Une différence que je vois très nettement, c'est que chez Rimbaud, il y a quand même foncièrement derrière sa poésie un fond d'expérience. Rimbaud a été un vrai... aventurier, un vrai baroudeur, et le monde, d'une certaine manière, est présent dans sa poésie, alors que vous venez de le dire, chez Lautréamont, le monde est le monde des livres. Et d'une certaine manière, il est un miroir de la culture et une espèce de miroir déformant de la culture.
Oui, ben moi j'aurais souhaité à Rimbaud de naître en Uruguay, comme ça il aurait eu une véritable expérience de vie qui a beaucoup manqué. Donc ça veut dire, malgré tout, permettez-moi de reprendre un petit peu l'hypothèse que vous nous présentez, malgré tout, Lautréamont, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est un étranger.
Montevideo,
donc. Il y vit pendant 12 ans ou 13 ans. Il y a un retour à Montevideo en 1967. Et ce retour à Montevideo est décisif pour l'écriture, puisque c'est en 68 que les choses, le chant premier est publié. Donc il y a cette expérience quand même. D'une terre étrangère, d'une faune et d'une flore étrangère, de la guerre civile là-bas, n'est-ce pas ? Et de l'espagnol aussi. Moi, je minimise un peu, mais évidemment, il parle les deux langues. Il est dans un milieu bilingue. Et puis après, expérience de l'internat, bien sûr, et comme vous le dites, à juste titre, j'ai lu tous les livres, ou du moins, j'ai presque lu tous les livres, pour citer Mallarmé. Mais c'est quelqu'un qui a donc une expérience vitale et en même temps, c'est un bibliophage extraordinaire. Hein. Comme en témoignent les chants de Maldoror, pour lesquels j'ai fait une abondance de notes parce qu'on ressent à chaque instant ce phénomène qu'on appelle à plus ou moins juste titre l'intertextualité. C'est-à-dire l'ensemble de la littérature forme socle dans les chants de Maldoror, qui en propose un filtre, n'est-ce pas ? Et une déformation, une transformation, une relecture. Ce qui nous montre d'ailleurs exemplairement, à partir de Lautréamont ou Ducasse, que la littérature ne se fait jamais à partir simplement du sujet. Hein. Elle s'énonce sur un fond considérable. Quand on commence à écrire, il y a toute la langue qu'on utilise derrière, et il y a tous ses auteurs aussi. Donc on s'inscrit dans une tradition et puis on brouille cette tradition. Voilà, en tout cas, c'est ce qui me paraît essentiel chez lui. Donc, évidemment, expérience vitale. Ça, j'ajoute à ce que vous avez dit. Ce n'est pas un monsieur qui est dans sa bibliothèque, mais il fait bouger la bibliothèque. Et comme nous dit Francis Ponge, adaptez à votre bibliothèque le dispositif Maldoror Poésie. Et tout va être retourné, tout va être transformé.
Michel Vignard.
Ben oui, ça pose cette question des sources. Enfin, je suis allé sur Internet, toujours, je vais toujours voir sur Internet, il y a toujours des choses à prendre.
Ça, c'est incroyable, votre responsabilité.
C'est incroyable le nombre de sites où on parle de Lautréamont et où, obsessionnellement, on est dans la recherche des sources. C'est un auteur qui appelle sans arrêt cette recherche des sources. Quel est le texte derrière tel passage, derrière tel mot? Et en même temps, il y a évidemment la précaution que nous a indiqué Maurice Blanchot, hein, le mirage des sources chez Lautréamont, c'est-à-dire en quoi faut-il ne pas se noyer dans ces sources? En quoi, je dirais, ce poète est-il poète?
Non, mais un poète peut avoir des sources multiples. Ça n'est pas interdit, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'originalité absolue, comme la voix n'est pas primitive. C'est la thèse de Derrida, me semble-t-il. La voix n'est pas première, elle est toujours différée, n'est-ce pas ? Hein ? Bon, eh bien, la littérature n'est jamais première, elle est toujours différée, et elle fait travailler une différence avec un A, n'est-ce pas ? Ce travail-là est essentiel. Alors, je ne sais plus très bien où on a été, là.
On a été à une question de François Angelier, là.
Oui, mais je me demande si le mot de source en définitive, est bien pour l'Autréamont.
Ah, voilà. Alors, j'interviens quand même. Tous ceux qui ont dénoncé le mirage des sources, et à commencer par Maurice Blanchot, mais Maurice Blanchot, c'est assez tard, et tous ceux qui ont dénoncé le mirage des sources ont replongé immédiatement dans des sources nouvelles qu'ils donnaient. Exemple, Maurice Blanchot, à peu près sur la même page, Baudelaire. Voilà. Non mais, donc c'est inévitable.
C'est pas la critiquer l'idée qu'il y ait avant le texte une espèce de prétexte dont Tréhamon s'inspire pour écrire. C'est grosso modo une source, c'est quelque chose dont on procède et dans le fil duquel on essaie de s'engager. Enfin, lui, je verrais plutôt une espèce de... Il hérite d'objets qui sont des objets constitués. Et à partir de ces objets constitués, il pratique des déformations, des retournements. Et c'est là où intervient son terrorisme intellectuel. C'est-à-dire que ce n'est pas une source dont il s'inspire, c'est un objet dont il hérite, et de cet objet, eh bien, il va faire un objet de terreur intellectuelle, exactement comme si on lui léguait une théière, et de cette théière, il met une bombe et qu'il envoie la bombe à quelqu'un par
oui,
la poste.
Vous avez tout à fait raison. C'est le mot machine infernale, voilà. N'est-ce pas ? Le premier qui propose ce terme-là, le prenant d'ailleurs dans Isidore Ducasse, enfin dans les champs de Maldoror, parce qu'il y avait pas mal de machines infernales qui guettaient les gouvernants à cette époque-là.
Oui, ça va devenir...
Et le premier qui utilise ça, en 1925, c'est Jean Poulain. C'est pas pour rien.
Ouais.
Et puis après, ça a été jusqu'à le terrorisme de Debord.
Oui, parce que le film de Debord, La dialectique peut-elle casser des briques, où il garde l'image du film de karaté, et puis en changeant les dialogues, ça c'est le dispositif l'Autréamont Maldoror.
Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'en tout cas, les champs de Maldoror, c'est un grand combat, n'est-ce pas ? Un grand combat d'un individu surhumain, mais en chacun de nous, on peut ressentir une surhumanité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle. Et c'est donc quelqu'un de surhumain qui s'en prend à un dieu, mais un dieu gnostique. Un dieu qui n'est pas l'Elohim des poésies, qui n'est pas un dieu positif, tel qu'on va le voir dans la deuxième partie de l'œuvre de Ducasse. Donc à chaque fois, il va s'agir de lutter contre le créateur, le faux créateur, et en même temps de manifester quelque part le scandale du mal. Parce qu'assez curieusement, il y a des passages de compassion, n'est-ce pas ? Pour des enfants, par exemple. Et puis, à côté de cette lutte, il y a la poursuite homosexuelle. Que ni les surréalistes, ni les telkeliens n'ont montré. On ne sait pas pourquoi. Alors Soler se disait hier, c'est tellement évident qu'on ne va pas le montrer.
Oui, c'est parce qu'il préférait regarder ailleurs. Il préférait regarder ailleurs. C'est quand même la réponse la plus évidente. Hein. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, ce qui ne s'applique pas à Arlette Farge. Et nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Allez, un dernier mot, mais vraiment quelques secondes à peine, Michel Vignard.
C'est un mot qui m'a frappé dans votre préface. Vous dites « La métamorphose est l'une des ondes magnétiques qui parcourt les champs la plus forte peut-être ». Et ce mot de métamorphose par lequel les objets, les abstractions prennent vie chez l'Autréamont, ça vient d'où ? Est-ce que là, ça a une source ?
Vous parlez d'Ovide, dites-le.
C'est l'extrême mobilité. Oui, c'est l'extrême mobilité du texte et qui parfois se manifeste aussi par cette multiple transformation. C'est un texte à transformation littéraire, mais aussi dans la représentation et donc dans les objets de cette représentation et parfois les animaux. Mais là, comme vous le rappeliez, il y a une tradition qui est la tradition ovidienne. Oui.